Aujourd'hui, on profite de l'occasion pour découvrir l'organisme pancanadien, la Société Santé en français, qui permet d'offrir des services de santé en français aux francophones et acadiens vivant en milieu minoritaire. Et vous avez sans doute entendu parler cet hiver du virus Zika, présent déjà dans 21 des 55 pays du continent américain. Le virus, qui se transmet par une piqûre de moustique, affecte le développement du fœtus, causant entre autres la microcéphalie. La microcéphalie touche 2% de la population, donc autour de 1700-1800 bébés sur 88 000 naissances annuelles au Québec. C'est cependant un nombre anormalement élevé qui a alerté les autorités du Brésil, qui ont dénombré 3000 cas suspects de microcéphalie qui ont été recensés depuis début janvier 2016, contre 150 par an entre 2010 et 2014. C'est ce qui a créé cette crise internationale du virus Zika. Pour bien comprendre en quoi consiste exactement la microcéphalie, je joins au téléphone la docteure Myriam Srour, neuropédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour, docteur Srour.
Bonjour.
D'abord, où en est-on concernant le lien entre la microcéphalie et le virus Zika?
Donc, un peu comme vous avez déjà expliqué, on a noté une incidence accrue de la microcéphalie en même temps qu'une augmentation du taux des infections Zika. Donc ça, c'était un des premiers signes qui ont alerté aux autorités de dire, OK, est-ce qu'il y a un lien possible? Mais depuis aussi, on a d'autres informations qui rendent ce lien beaucoup plus accru, puis on est quand même confiant que la microcéphalie peut être associée au virus Zika. Donc récemment, il y a eu une publication où on a fait l'autopsie d'un fœtus avec la microcéphalie chez qui la mère était connue d'être porteuse et infectée du virus Zika durant sa grossesse. Mm-hmm. Puis à l'autopsie, on a pu trouver de l'ADN du virus, plus on a pu aussi voir les effets du virus sur le cerveau, notamment donc en plus de la microcéphalie où la tête est petite, il y avait aussi ce qu'on appelle des calcifications, des petits morceaux de calcium dans le cerveau et vraiment de l'évidence d'une destruction du cerveau, mais aussi d'un développement anormal du cerveau.
Donc, c'est vraiment des nouvelles données qu'on a eues et qui nous permettent de créer un lien plus solide.
Direct, voilà.
Ou un lien direct. Définissons d'abord ce qu'est la microcéphalie.
Donc, la microcéphalie, comme vous avez expliqué, c'est vraiment... On mesure le périmètre de la tête, puis on connaît le périmètre de la tête attendu pour tous les âges. Donc si c'est à moins du deuxième pourcentile pour l'âge, on appelle, ça c'est la définition de la microcéphalie. Il faut quand même savoir qu'il y a différentes sévérités de la microcéphalie. Donc quelqu'un qui a un périmètre crânien qui est petit, juste au deuxième pourcentile, par exemple, ça peut ne pas être associé avec quoi que ce soit. Ça peut être une personne normale, avec pas de difficultés de cognitives ou autres, neurologiques. Mm-hmm. Mais il y a aussi des microcéphalies très sévères, comme celles associées au virus Zika.
Donc, on parle de différents niveaux de sévérité.
Voilà.
Quelles sont les conséquences?
Donc, pour comprendre les conséquences, il faut comprendre les causes. Donc, peut-être avant même de vous parler des conséquences de la microcéphalie, je vais peut-être vous parler un peu des causes.
Oui, allez-y.
Donc, vraiment, il peut y avoir beaucoup de causes de microcéphalie. Donc, n'importe quel cerveau pendant son développement, OK? Donc, vraiment, on parle d'un cerveau fœtal ou d'un bébé chez l'enfant qui grandit. S'il y a toute destruction, donc, par par exemple une méningite sévère ou un accident cérébrovasculaire ou d'autres infections prénatales. Donc, il y a d'autres virus aussi qui peuvent affecter le développement du cerveau. Ça peut causer de la microcéphalie, de un. Mm-hmm. Aussi, il y a des causes génétiques. Donc, quand on regarde le cerveau à la résonance, par exemple, c'est un cerveau qui a l'air normal, de forme normale, mais juste plus petit. Et puis, il y a d'autres causes dues aussi génétique, mais où le cerveau structurellement n'est pas normal. Il y a une malformation pendant le développement. Donc, voilà. Donc, le développement du cerveau n'a pas eu lieu comme il fallait. Donc, le cerveau est plus petit. Donc, tout ça sont des causes de microcéphalie.
Et il y a des conséquences physiologiques et parfois cognitives.
Voilà, exactement. Donc, la chose qui nous inquiète le plus quand un enfant a une microcéphalie, c'est les séquelles sur le développement. Donc, les enfants avec une microcéphalie ont un plus haut risque d'avoir un retard dans leur développement qui peut être variable. Donc, ça peut être un retard léger ou ça peut être un retard sévère. Certains enfants avec une microcéphalie très sévère, disons à une infection prénatale du cerveau, soit ne pas marcher en retard ou ne pas marcher du tout. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle de la spasticité ou une paralysie cérébrale. Il peut y avoir des atteintes cognitives. Puis, dépendamment de la cause sous-jacente, ça peut être associé à de l'épilepsie, des problèmes au niveau de la vision, des problèmes au niveau de l'audition, etc. Donc, vraiment, ça peut être associé à beaucoup de déficits neurologiques, mais dépendamment de la cause.
Est-ce que le reste du corps de l'enfant va croître normalement? Parce que c'est la tête qui est
Oui.
affectée.
Alors, aussi, c'est une très bonne question. Donc, je vous dirais la plupart du temps, oui, le restant du corps de l'enfant va croître normalement parce que c'est vraiment d'habitude juste une atteinte au niveau du cerveau. Oui.
Donc, est-ce qu'au départ, c'est le cerveau ou la boîte crânienne qui a un retard de croissance? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui arrive en premier?
Oui, certainement. C'est toujours le cerveau qui est en retard. Donc, la boîte crânienne se développe en réaction au développement du cerveau. Donc, un cerveau qui grossit très vite, la boîte crânienne va grossir très vite. Un cerveau qui ne grossit pas assez, la boîte crânienne va demeurer petite et ne pas grossir avec le cerveau.
Docteur Srour, est-ce qu'il y a d'autres indices que la tête de l'enfant qui peut nous amener à penser qu'on a une microcéphalie et donc différentes conséquences qui vont arriver?
Vous voulez dire, chez un enfant,
est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut identifier par des prises de sang ou est-ce que c'est vraiment un...
Donc, non. OK. Donc, c'est une bonne question. Donc, non. D'habitude, il faut vraiment mesurer la tête pour faire le diagnostic. Mais chez tout enfant qui a un retard de développement, c'est une des premières choses que le médecin va faire. Donc, vous savez, chez un suivi régulier de l'enfant, le pédiatre va toujours mesurer le périmètre crânien. Puis, si en voyant que le périmètre crânien ne grandit pas tel qu'attendu, on va faire des investigations puis un suivi plus
rapproché.
Voilà.
Parce que ça peut arriver qu'à la naissance, la grosseur de la tête soit dans la norme, mais peut-être au courant du développement dans la première année, ça ne grandisse pas comme on l'espère. Est-ce qu'il existe des traitements?
Pour la microcéphalie, malheureusement, non. Il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a plus de traitements pour aider les personnes atteintes dans les différents domaines. Donc, si la personne va avoir un retard de développement, on va les supporter et les aider avec des suivis en ergothérapie, physiothérapie. S'ils ont une épilepsie associée, il y a des médicaments pour l'épilepsie, etc. Donc, on n'a pas de traitement pour la microcéphalie elle-même, donc on n'a rien qui va aider à rendre le cerveau à pousser, là. Mais donc nos traitements sont plus pour les conséquences.
Oui, exactement. Donc apporter du soutien et des ressources à côté. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur la microcéphalie?
Je vous dirais que oui, et beaucoup de recherches pour les causes des microcéphalies. Donc, souvent, La microcéphalie, comme j'ai expliqué, c'est souvent associé, ça peut être associé à un déficit intellectuel ou un retard de développement. Donc, il y a beaucoup de recherches sur les causes de la microcéphalie, puis les retards de développement ou déficit intellectuel, les causes génétiques ou autres. Beaucoup de la recherche en termes d'imagerie pour faire un diagnostic plus spécifique aussi. Donc, certainement, il y a beaucoup de recherches dans la microcéphalie.
En terminant, s'il y a des femmes, par exemple, qui sont enceintes et qui ont une crainte pour la formation de leur fœtus, où est-ce qu'elles peuvent aller chercher de l'information ou qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les rassurer? Parce que c'est quand même une malformation congénitale qui est rare.
Voilà, c'est quand même une malformation congénitale rare. À l'échographie, à 20 semaines, on peut déjà voir un indice, mais souvent, ça va vraiment être après la naissance de l'enfant, puis le suivi avec le pédiatre, puis le suivi de son développement qu'on va pouvoir faire un diagnostic si c'est le cas, mais c'est quand même un diagnostic rare.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Myriam Srour. Vous êtes neuropédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous aujourd'hui.
Merci. Bonne journée.